Les experts, débats et controverses sur BFM Business.
Et pour parler de ce programme chargé, on a du pain sur la planche ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Valentine Hénouz. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi. Bienvenue dans cette première participation, je crois,
bah oui,
sur le plateau des experts. À vos côtés, Dany Lang. Bonjour Dany.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne, Paris Nord et membre des économistes atterrés. Vous n'en êtes pas tout à fait à votre première participation.
Non.
Vous non plus, cher Guillaume Poitrinal. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Ravi de vous accueillir tous les trois. On est parti pour une heure, beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on va commencer d'abord par les infos macro qu'on a eues, la conjoncture qu'on a eue par l'INSEE en fin de semaine dernière. La France s'installe-t-elle en stagflation? Croissance zéro au premier trimestre, 2% d'inflation en avril. Et pourtant, nous a dit Christine Lagarde, c'était jeudi dernier, la stagflation décrit dans les années 70 n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Allez Valentine, j'ai envie de commencer avec vous. Est-ce qu'on entre dans un risque de stagflation aujourd'hui?
Alors, il y a ce risque, mais stagflation des années 70. Années 70, on avait quand même une inflation à 10-15%. Donc aujourd'hui,
un autre monde.
C'est un autre monde. Et surtout, une inflation où il y avait des effets, ce qui va être important de regarder aujourd'hui, on a une hausse du prix du pétrole, mais c'est la diffusion de la hausse du prix du pétrole sur le reste de l'économie. Et aujourd'hui, ma conviction, c'est que cette diffusion de la hausse du prix du pétrole sur le reste de l'économie va rester assez modérée. Donc ce risque inflation, je le trouve pour moi assez modeste aujourd'hui.
Oui, on est à 2%, on n'est pas...
On est à 2%, on est loin de ces 15. Par contre, il y a véritablement un risque de croissance pour moi, beaucoup plus qu'un risque d'inflation. Et plus cette guerre va durer, plus ça peut nous coûter en points de croissance. Parce que cette guerre, elle pèse sur la croissance, pour moi, via trois canaux. Le premier, c'est la hausse du prix de l'énergie.
Oui.
Parce que cette hausse, ça veut dire des coûts de production en hausse pour les entreprises, moins de pouvoir d'achat pour les ménages, un niveau d'incertitude qui est élevé. Hein, et les acteurs économiques, les ménages, les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Et je dirais le point le plus important, ça va être la fonction de réaction des banques centrales. Parce que le risque...
Bon, on a vu, jeudi, bonne nouvelle, bon, le 30 avril...
Pour l'instant...
Pas de hausse des taux.
Hein. Mais le risque, c'est qu'on ait un durcissement des conditions de financement si les banques centrales montent leurs taux et une réévaluation du risque sur les marchés financiers. Parce que pour l'instant, les marchés financiers restent assez complaisants face à ce risque croissance.
Donc complètement. On va de record en record.
Exactement. C'est même, donc plus c'est qu'un risque inflation pour l'instant, il y a vraiment un risque croissance pour moi.
Dany Lang, d'accord avec ça. C'est vrai qu'on dit qu'une hausse de 10%, de 10 dollars pardon, du baril, c'est 0,1 point de croissance en moins d'habitude.
Oui.
Valentine Hénouz nous dit risque de récession, voilà ce qu'il faut surveiller, pas tant l'inflation.
Oui,
d'accord, Dany Lang.
Je suis assez d'accord avec vous. La stagflation, ce n'est pas du tout une situation comme celle dans laquelle on est. Et puis les pétroliers ont encore quelques semaines de marge avant vraiment d'augmenter les prix. Donc on n'est pas du tout dans la situation des années 70. Par contre, à terme, effectivement, ma crainte, c'est que les banques centrales finissent par remonter les taux pour faire face à cette situation. Et quand les banques centrales remontent les taux, ça aggrave la situation économique. Donc, effectivement, vous avez raison de souligner que le risque, c'est sur la croissance économique et ouais. sur l'emploi. On a plus un risque de stagnation qu'un risque de stagflation. Cela dit, si les bêtises de M. Trump venaient à durer dans le temps, il n'est pas non plus à exclure que l'inflation soit plus élevée que les 2% actuels.
Oui.
Donc le problème, c'est l'incertitude. On en parlait déjà au mois de janvier. Si ça dure, il se pourrait que l'inflation augmente, mais certainement pas au niveau des années 70. Ceci dit, l'inflation en soi, un peu d'inflation comme on a maintenant, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les dettes publiques et privées.
Oui, on sait que ça a permis de nettoyer un peu les dettes, un peu d'inflation.
Ce qui compte, c'est le poids de la dette. Or, la dette privée est particulièrement élevée. C'est la première cause de crise économique. Un tout petit peu d'inflation, là, celui qu'on a... Si on pouvait rester au niveau qu'on a maintenant, ce serait bien.
On est toujours proche de la cible de la BCE. Ouais. On recevait sur BFM TV ce matin le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur les risques de récession. Il est plutôt optimiste, on l'écoute.
Moi, je ne dirais pas que rien ne va plus. Dans tous les scénarios que nous publions, on garderait quand même une croissance positive cette année. Alors, on est entre 0,9 dans le cas le plus favorable ou 0,3 dans le cas le plus défavorable, on verra. et la France échapperait à la récession. Donc ça, c'est des moins mauvaises nouvelles. Maintenant, on va pas se raconter l'histoire. Ce choc qui arrive de l'extérieur, c'est évidemment un élément négatif, pas seulement pour l'économie française, pour l'économie européenne et l'économie mondiale.
Guillaume Poitrinal, vous êtes chef d'entreprise, vous, et notamment dans le bâtiment, vous faites de la construction en bois. L'INSEE a bien indiqué fin de semaine dernière que le bâtiment était l'un des secteurs qui pâtissait le plus du ralentissement aujourd'hui. C'est ce que vous constatez
aussi. Oui, en fait, il y a deux forces sur le prix des bâtiments, si c'est ça que vous posez, les coûts de construction, qui sont quand même assez importants dans ces facteurs d'inflation.
Avec des hausses qui passent dès le mois de mai.
Il y a deux éléments. Il y a quelques matériaux dont les prix augmentent, mais il y a surtout une pression à la baisse des prix globaux parce qu'il y a beaucoup moins de demandes. Il y a beaucoup moins de demandes pour les entreprises, donc les carnets de commandes ont tendance à baisser, et ça c'est lié en effet à la fois à la hausse des taux qu'on a connue, et puis aux craintes de réhausse des taux. Donc je suis tout à fait d'accord avec nos économistes sur le terrain, on appelle quand même plutôt à une baisse des taux directeurs des banques centrales, d'abord parce que honnêtement, 2,6%, c'est pas 10% d'inflation quand même. On reste dans des normes qui restent tout à fait acceptables. Et puis juste parce qu'il va falloir soutenir quand même cette activité économique. Et ces taux, ils comptent beaucoup puisque les taux, c'est quand même la matrice essentielle de l'investissement, notamment l'investissement immobilier est très sensible évidemment à la question des taux. Donc voilà, on est un peu dans cette espèce de système d'entre-deux en fait, ouais, où il y a des facteurs inflationnistes, il y a des facteurs désinflationnistes, il y a deux poussées, mais à la fin, il faudrait qu'il y ait de la croissance pour remettre tout le monde d'accord, et cette croissance, elle viendra d'une baisse des taux.
Oui, et puis d'une guerre qui devrait s'arrêter aussi le plus tôt possible, évidemment. Il y a eu des signaux positifs, comme je voulais qu'on revienne sur cette note de l'INSEE, Valentine Hennouz, ce qui a plombé la croissance au premier trimestre. Je rappelle, croissance zéro, alors qu'on attendait entre 0,2 et 0,3 points de croissance. C'est le bâtiment qui se porte pas bien. C'est le commerce extérieur qui a beaucoup pesé aussi. Pourquoi ? À cause de problèmes de livraison d'Airbus. On le sait, bon, mais les carnets de commandes sont pleins chez Airbus. Et donc, ce qu'on a perdu au premier trimestre, ça va repartir au deuxième trimestre. Et la consommation des ménages, qui n'était pas en forme aussi. On sait que le moral des ménages dépend de l'inflation. On a des points positifs quand même, non ? On a la Coupe du Monde qui va arriver, qui va relancer un peu la conso. Ça marche toujours comme ça. On a le secteur de la défense qui va être porteur pour l'avenir. L'investissement, note l'INSEE, se porte plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre pour la suite ?
Alors, je pense qu'un des points positifs de ce conflit, si on veut rester dans le ton positif, c'est que ça va quand même en mettre en avant les besoins d'investissement dans la défense et dans tout ce qui est indépendance énergétique. Et ça, pour moi, ça va être la conséquence positive de ce conflit. C'est qu'on réalise quand même en Europe qu'il faut renforcer notre souveraineté et qu'on a véritablement plus de besoins de financement dans la défense et dans tout ce qui est indépendance énergétique. Mais on est quand même dans un environnement aujourd'hui où je trouve qu'il quand même faut souligner le point moins positif, c'est que la dynamique de l'emploi est nettement moins bonne que ce qu'on avait il y a quelques années. Oui. C'est pour ça que je serais quand même très très prudente sur l'impact des hausses de taux sur nos économies si la BCE montait ses taux. Et c'est quand même un scénario qui se dessine pour le mois de juin, parce qu'on est dans un contexte qui est totalement différent de celui de 2022. Si on regarde en 2022, on crée entre 3 et 4 millions d'emplois, on avait des croissances sur les salaires qui étaient à 5%. On est aujourd'hui plus du tout dans ce contexte. Que ce soit en France, en Allemagne, le secteur industriel détruit des emplois. Donc, on n'est plus du tout dans cette même dynamique de création d'emplois, ni même de hausse de salaire. Si on regarde tous les indicateurs avancés sur les salaires pour les 12 prochains mois, c'est un très net ralentissement.
Oui. 2026 s'annonce comme la pire année depuis 2013.
Voilà. La bonne nouvelle, quand même, il faut dire, enfin, le miracle, c'est l'énergie nucléaire française. Enfin, il faut quand même savoir. On a quand même un parapluie,
la bouée de sauvetage,
considérable, qui met quand même à mal tous les autres modèles, notamment les modèles qui veulent reposer sur les énergies intermittentes et non pilotables, donc l'éolien et tout le reste. Le nucléaire, aujourd'hui, il prouve son utilité. Moi, je vois même, sur les matériaux de construction, pour revenir, autrefois, le ciment, c'était le prix du pétrole. Autrefois, le verre, les matériaux verriers, l'acier, c'était le prix du pétrole. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus détaché. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément
d'usines
qui se sont mis à l'électrique, tout simplement, tout bêtement, et qui étaient autrefois au pétrole ou au charbon. Donc, il faut quand même, on devrait avoir une avenue Messmer ou une place Pierre Messmer dans tous les villages de France. Cet homme formidable qui a équipé la France entre 74 et 84 qui a inventé ce plan sous Pompidou, qui fait que on a fait 20 des 30 réacteurs qui tournent aujourd'hui ont été décidés à cette époque-là, et que le dernier réacteur, hélas,
il y en a même
comme vous le savez, le dernier réacteur, heureusement on a réouvert l'année dernière, mais on a eu un trou pendant 20 ans entre 2003 et 2023.
Je voudrais qu'on écoute Daniel Ball, le président de la Fédération bancaire française, qui nous parlait lui aussi de l'état de l'économie française ce matin. Il trouve que ça va pas si mal non plus.
Pour ce qui concerne les entreprises aujourd'hui, leur trésorerie n'a pas encore trop souffert. Évidemment, sauf certains secteurs d'activité directement impactés par les prix de l'énergie et parfois par les prix des produits chimiques. S'agissant des ménages, pareil, c'est les gros rouleurs effectivement qui peuvent avoir quelques difficultés. Vous parlez des prêts, ce n'est pas parce que les taux remontent aujourd'hui que les prêts que nos clients ont aujourd'hui en portefeuille augmentent, puisque en France, notamment, le financement du prêt immobilier est à taux fixe, et ça, c'est un élément de protection.
Voilà, un élément de protection, Dany Lang.
Écoutez, moi je suis assez partagé parce que quand j'entends que le bâtiment va pas bien, je suis pas rassuré. Alors ça vous fera plaisir, mais c'est pas pour vous faire plaisir. C'est quand même un des secteurs, on dit souvent quand le bâtiment c'est pas si faux que ça, en fait, quand on voit ça. C'est un des secteurs où vous avez un fort effet multiplicateur. Vous mettez un euro, vous en sortez beaucoup plus. Donc, je suis pas très rassuré de savoir que ça vacille de ce côté-là. Et mon problème, c'est que sur les baisses de taux, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, il faudrait encore les baisser pour faire baisser les taux. Mais les baisses de taux, ça marche pas forcément. Les hausses de taux, par contre, ça a toujours un effet négatif. Donc, il les fallait pour la stabilité financière en 2022, après le choc de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, surtout pas. Et ma crainte, c'est ça, c'est qu'à force, la BCE, qui est aujourd'hui Madame Lagarde et Monsieur De Gallo, ils ont un rôle, c'est d'influencer les anticipations. Quand ils disent ça va aller bien. Ça ne veut pas dire qu'ils le font forcément. Ça veut dire que leur rôle, c'est de limiter les hausses de prix qui seront liées aux anticipations. C'est leur rôle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas crédibles, mais ça veut dire que c'est leur rôle. Donc, je ne suis pas aussi optimiste que ce qu'on vient d'entendre, même si je ne suis pas non plus d'un pessimiste crasse. Mais cela dit, une croissance de 0,3 à 0,9, ne nous gargarisons pas, il y a un problème de demande dans ce pays, c'est un autre débat, mais c'est bas.
Consommation qui s'effondre au premier trimestre.
Et puis après, on a toujours cette crise qui n'a rien à voir avec la conjoncture, qui est une crise fondamentale et profonde de l'économie immobilière et notamment de la promotion immobilière, qui est liée à trois phénomènes en fait. Nous sommes surtaxés, on surtaxe la production immobilière, comme beaucoup d'industries d'ailleurs, on n'échappe pas, etc. Parce que les industries qui sont principalement locales sont elles-mêmes surtaxées avec les impôts de production qu'on connaît, parce qu'on prend 20%, l'État prend 20% du prix à la fin finale, y compris le foncier. Donc, vous allez payer 20% sur la marge du promoteur, c'est logique. Vous allez payer 20% sur le béton, le bois, le verre, etc. C'est logique. Et vous allez aussi payer 20% sur le foncier que le promoteur a acheté 2000 euros et qui va vous revendre 2000 euros. Donc, et là, l'État prend 20% de TVA. Donc, on a un système qui est absolument délirant là-dessus. Il y a beaucoup de pays qui ne procèdent pas comme ça, d'ailleurs. Et puis, le troisième élément, c'est qu'en fait, le deuxième, c'est qu'on a cette complexité administrative qui est assez délirante, assez particulière à ce pays dans lequel nous avons accumulé les décideurs de l'acte de construire. Donc, quand vous voulez construire quelque chose dans ce pays, vous n'avez pas affaire à monsieur le maire, comme dans beaucoup de pays, vous avez affaire à monsieur le maire, à monsieur le président de la communauté de communes, s'il faut bouger le PLU, parce qu'il y a besoin de bouger le PLU ou faire ceci. Vous avez très vite affaire au département pour les routes départementales, parce qu'il y a toujours un bout de département. Vous avez affaire à la région pour les transports, et vous avez affaire à l'État, qui, de toute façon, surveille les communes, surveille tout. Et pour peu que vous soyez dans une opération d'intérêt national, c'est le préfet qui vous signe le permis de construire, et non plus monsieur le maire, mais le monsieur Monsieur le maire l'a quand même instruit. Donc à la fin, si vous voulez, on mobilise énormément de pouvoirs qui ne sont pas tous d'accord. Et donc la complexité administrative, elle est colossale. Et la deuxième manche, comme vous savez, se joue devant les tribunaux, puisqu'on a un droit tellement, tellement considérable qu'il est incertain. Et donc on est totalement dans le troisième élément, c'est qu'on a supprimé le goût de construire au maire.
Alors, il y a bâtisseur, mère battue,
mais surtout, en fait, avec les dernières réformes sur les impôts, le maire a très, très peu intérêt financier à construire dans sa commune.
Il n'y a que des embêtements.
Donc, et à la fin, on finit dans un système qui est en crise, alors là, presque structurelle. Et cette crise, elle a des impacts sociaux. Et c'est là où je regarde Dani. Parce que la question de cette crise, c'est comment est-ce qu'on loge les enfants ? C'est ça la question.
Oui.
Et comment est-ce qu'on loge les pompiers, les infirmières ? Est-ce que tout le monde doit aller à la fin dans du logement social ? C'est voilà. Et donc moi j'appelle une grande réforme. Et cette réforme, elle doit passer aussi par le retour de l'investisseur privé. Il faut savoir que on va parler de Total tout à l'heure. Si vous voulez avoir vraiment faire des affaires et pas être taxé sur votre épargne, vous investissez dans Total.
Oui.
Si vous investissez dans un studio ou une chambre d'étudiants pour fournir une chambre d'étudiants en zone tendue, etc., vous allez être martyr fiscal.
Oui.
Vous passez,
oui. Bon,
vous allez
là,
être
mais
martyr
vous avez
fiscal.
De...
Oui. Moi, martyr, je vais vous dire pourquoi, Dani.
J'irai pas juste
tout simplement
là, mais...
parce que vous pouvez arriver avec accumuler les impôts, y compris l'impôt sur la fortune immobilière, vous pouvez arriver à un rendement négatif. C'est-à-dire totalement dévoré par l'impôt.
Enfin, je pleurerai pas sur l'IFI au vu du barème, mais par contre, je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de choses que vous avez évoquées, notamment la grande complexité administrative. Rajouter toujours des couches de complexité administrative, c'est une tendance générale. Il y a depuis 30 ou 40 ans, et à chaque fois qu'on nous promet des lois de simplification, on le voit à l'université, on a une couche administrative supplémentaire et on passe toutes nos ressources là-dedans. Donc là-dessus, je serais d'accord avec vous. Martyr fiscal, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai.
Non, mais quand on a 2-3% de rendement sur l'immobilier, effectivement,
l'immobilier, et là, il y a des choses à faire. Donc, il faudrait regarder précisément, décomposer, etc. Mais effectivement, moi, je suis pas un fan de la baisse de la fiscalité, loin de là. Je trouve qu'il y a la suppression de la taxe d'habitation, c'était une connerie. La TVA indifférenciée, c'est une connerie. Qu'il faut regarder de plus près. Si ça tenait qu'à moi, les taxes, la TVA sur la construction, le bâtiment serait beaucoup plus bas. Si c'est ça que vous vouliez m'entendre dire,
oui,
c'est clair.
Mais c'était mon objectif.
Pour autant,
objectif
martyr
atteint.
Fiscal, n'exagérons pas. Mais c'est
non,
vrai
mais c'est
qu'aujourd'hui,
des conséquences. Voilà,
il vaut mieux être actionnaire de Total que d'investir dans la pierre. Et ça va pas.
Valentine Hénouze.
Ouais, ce qui est important quand même sur toute la partie immobilier aujourd'hui, c'est les niveaux des taux longs en France, le niveau du 10 ans. Et je trouve que les prix de l'immobilier n'ont pas forcément ajusté par rapport à cette hausse qu'on a eue sur les taux longs. Et on est quand même aujourd'hui rentré dans un changement de régime où on voit que les taux longs sont de moins en moins sensibles aux baisses des taux courts. Donc même si la BCE aujourd'hui baissait les taux, c'est absolument pas la dynamique.
Non, c'est pas le
risque
pas ce qui est prévu.
Plutôt sur une hausse. Mais on va se projeter à 2 ans. Même si on est sur une BCE qui baisse ses taux, il est peu probable qu'on ait des taux longs qui baissent de tout autant. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui pèse sur les taux longs aujourd'hui, c'est les besoins de financement des États. Et on voit que les besoins de financement des États, aujourd'hui, sont devenus structurels et vont rester élevés sur les années à venir. Ils sont structurels parce qu'ils répondent à des besoins de financement sur la vieillesse, sur la défense, sur tout ce qu'on disait avant, les dépenses pour les infrastructures, la transition énergétique, la digitalisation. Donc, on va avoir des besoins de financement des États aujourd'hui qui ne dépendent plus. Avant, on avait des déficits élevés quand on était en récession, quand on avait du chômage, etc. Maintenant, on garde des déficits élevés, quelle que soit la dynamique conjoncturelle de l'économie. Y compris quand il fait beau, pour des raisons.
Oui, enfin, il fait beau à 0,9% en même temps. Le problème de fond est celui-là, c'est les taux de croissance de long terme qu'on a sont extrêmement faibles parce qu'on joue que sur l'offre et on ne joue plus sur la demande. Donc, c'est la conséquence de cela.
On a un problème de stimulation de la demande.
Depuis 2017, +B+C a stagné, voire a augmenté.
Ces besoins de financement, ce n'est pas simplement une histoire française, c'est une histoire qui est globale.
Oui.
Et on voit aujourd'hui que les investisseurs, moi je suis sur les marchés de taux, restent extrêmement sensibles quand il y a des annonces de politique budgétaire. On voit immédiatement les taux longs monter. Donc il y a vraiment, pour moi, une baisse dans l'efficacité des politiques budgétaires. On annonce une politique budgétaire pour soutenir l'économie. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des pressions sur les taux longs. Et donc ces pressions sur les taux longs, par contre, à l'opposé, sont négatives.
Rappelons quand même qu'ils restent les taux sur la dette publique à 10 ans. reste à des niveaux très raisonnables par rapport à la période de 2009-2010.
On n'est plus sur les mêmes niveaux de croissance.
On a quand même multiplié par 3 depuis 2020 et la crise Covid. Et c'est peut-être cette pression des marchés qui font que Sébastien Lecornu n'annonce qu'au compte-gouttes les aides publiques au carburant, notamment. Ce week-end, le décret sur l'indemnité carburant pour les, je cite, travailleurs modestes, grands rouleurs, a été publié au Journal officiel. On peut faire attention à l'argent public sans oublier la France qui bosse, a dit Sébastien Lecornu. La réalité des faits, c'est que pour l'instant, on ne distribue que des quelques centaines de millions d'euros à telle ou telle profession contre 7,5 milliards, je le rappelle, en 2023. Est-ce que le gouvernement gère bien, Guillaume Poitrinal, le robinet aux aides publiques, on verra.
Il avait envie de me passer la parole parce qu'il m'a vu souffler.
Non mais vas-y.
Non, très franchement, on recommence comme la dernière fois, pas au même niveau. Cette fois, c'est 50 balles. Allez, on va voir si on renouvelle. Ça va coûter 160 milliards. Si on renouvelle, ça va être 160 milliards par...
millions,
parce que 160
milliards, ça ferait un peu...
160 millions par mois, désolé. Tu as totalement raison, 160 millions par mois. Pour un effet, c'est les 5 premiers déciles, hein, la moitié de la population française. C'est effectivement sur eux que ça pèse le plus lourd. Mais on va filer 50 balles à un petit rouleur, à un gros rouleur. On finance les énergies fossiles alors qu'il faudrait plus le faire, mais bon, cela dit, à court terme, on n'a pas tellement de choix pour ces gens. Mais oui, très franchement, moi, j'étais pour que on plafonne, on bloque les prix pour faire baisser les marges des pétroliers.
Mais c'est ce que fait Total.
Plusieurs mois.
Les prix sont bloqués depuis le début de la crise.
Ouais, hein, 99 Total, super, c'est auto-bloquer les prix. Oui. Moi, j'étais pour qu'on bloque l'ensemble des prix parce que voilà, et même qu'on prenne sur les marges de Total et compagnie, parce que ces compagnies ont plusieurs mois de stock, et ça fait que chaque fois que ça s'emballe, bah ils font des marges monstrueuses, même en bloquant les prix à 2 euros. Donc il faut voir sur le long terme, mais à court terme, le blocage des prix de l'essence aurait été beaucoup plus intelligent que jeter encore 160 millions par mois par les fenêtres.
Un blocage des prix en général, alors, ça amène vers...
Il y a une partie, je suis d'accord avec Dany, parce que franchement, les histoires de micro-mesures, micro-trucs, il y aura des gars qui vont échapper, pas échapper, on finira avec beaucoup de complexité administrative.
Il y a ceux en bas, pardon, je les ai oubliés, ceux-là, ceux en bas qui, le non-recours, c'est un phénomène documenté, massif, et on sait très bien que les deux premiers déciles, ils sauront pas comment s'y prendre, ils vont pas les attraper, c'est 50 balles. Okay. Voilà.
Heureusement qu'on a Total, les amis. Franchement, Total.
Mais j'ai pas dit le contraire.
Ouais, je veux dire, moi, la réaction à cette crise, c'est alléluia. Oui. On a Total. On a Total qui, en plus, accepte, sans être obligé, à limiter le prix du litre du carburant à 2 euros.
Ils font un super coup de com' en même temps. Oui. Ils limitent encore un peu plus. Si
ouais, d'accord. Moi, je suis content.
Avec les marges qu'ils font.
Je suis content. Je suis content que Total, dont 90% des actionnaires, 90% des actionnaires de Total ne sont pas français. Et cette boîte réalise, je pense, aussi 80% de ses profits à l'étranger. Donc on a un truc, moi je veux dire, je suis peut-être content qu'il soit même, oui, à la défense, ton là. Voilà. Alors après, il faut prendre un peu de recul et il faut se dire quand même que ce qu'on voit là va nous amener vers l'électricité quand même. Si on prend un peu de recul, j'oubliais les trucs. Ça. Ce qu'on voit là va nous amener vers l'électricité. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, les États-Unis, c'est une superpuissance oil and gas. Et elle restera. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là à faire la guerre, etc. C'est parce qu'ils sont une superpuissance oil and gas. Mmh. Et pourquoi est-ce que moi j'ai mon explication? Pourquoi est-ce que les Chinois sont finalement un tout petit peu en retrait de tout ça?
Parce que les Chinois sont en train de s'électrifier.
Et donc le prochain siècle, enfin le siècle qui commence à partir de maintenant, c'est un siècle de ceux qui auront l'électricité par rapport à ceux qui vont aller se battre pour les derniers barils de pétrole, qui iront se battre très cher, etc. En plus en subissant des taxes anti-réchauffement climatique, etc. Donc l'histoire, c'est qu'il faut aider tous ces gens à s'électrifier le plus vite possible.
Donc plutôt des aides à l'électrification.
Il faut les amener à l'électrification. Moi, j'ai la chance de rouler en voiture électrique, full électrique. Je vais vous dire, voilà, je suis très heureux de. J'ai pas souffert du sujet, quoi. Oui. Et c'est ça que ça va amener. Moi, je suis content que Renault là déploie en ce moment. Il paraît qu'ils vendent énormément de voitures électriques. Renault, c'est formidable aussi, formidable pour l'industrie française. Donc, allons-y, passons à l'électrique.
Valentine Hennouz, un dernier mot. Le gouvernement gère plutôt bien les aides.
Au
compte-gouttes.
Il n'a pas le choix. Ouais. Bah, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, hein, qu'il gère avec plus de parcimonie le budget. Mais ça met surtout.
Ce que disaient et le FMI et Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne, hein, il faut que les aides soient timely, targeted, temporary.
Juste pas le choix,
ciblées en temps et en heure et surtout temporaires.
Parce que la marge de manœuvre budgétaire aujourd'hui pour répondre à un choc exogène, elle est extrêmement faible. Hein. Si on regarde notre dette sur PIB, elle a énormément augmenté depuis le Covid, on est à 115%. Si on regarde notre niveau de dépenses publiques en France par rapport au reste de la zone euro, on est sur des niveaux les plus élevés, on est à 57%. Donc on a aujourd'hui un niveau de taxe qui est déjà aussi sur des niveaux élevés. Donc notre marge de manœuvre pour soutenir l'économie dans cette configuration, elle est très faible. Donc ils ont pas d'autre solution aujourd'hui que d'agir avec parcimonie. Surtout qu'on est comme je suis Madame Taux, hein. On est dans un environnement de taux qui a considérablement changé. Si on regarde entre 2008 et le Covid, on avait une dette publique qui a augmenté, mais en même temps, on avait les taux qui ont baissé.
Et qui coûtaient de moins en moins cher.
Et paradoxe. Plus on s'endettait, plus on avait notre coût de dette qui baissait. Hein. Faut quand même rappeler qu'en 2020, les taux, ils étaient à moins 0,15%. Aujourd'hui, on est à 3,7%. Donc, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'agir avec parcimonie sur la dépense budgétaire. On est dans un environnement de taux qui est totalement
différent. Surtout avec le stock de dette qu'on a accumulé.
Merci les taux. Exactement. La rigueur forcée.